On y va. Alors, on passe où? Comme ça. Réclamer de bête. Passe où? Alors, passe où crafter. Va comme ça. Donc, il a battu l'ange. Et dans le passouk, il lui dit, laisse-moi partir. Il lui dit, non, je te laisse pas partir. Alors, il lui dit, comment tu t'appelles? Il lui dit, Yaakov. Alors, il lui dit, Lo Yaakov, Yamerot Simcha. Pas Yaakov sera ton nom. Kim Israël, ce sera Israël. Kisarita, Imelokim, Vimanashim Vatoukha. Parce que tu as combattu, tu as dominé des dieux et des hommes. Tu as réussi. Ouais, Elohim, hein, Dieu des dieux. Oui. Alors, regardez Rachid. Lo Yaakov. Lo Yamerod, il ne sera pas dit encore, chez Abrachot, Baoulecha, Barakeva, Veremia. Ce ne sera pas dit que les Brachot sont venus à toi par, de manière détournée par de la tromperie. Im Besrara, Ubegilu Ipanim. C'est Sarah, elle règne. Gilou Ipanim, quelque chose de clair. Mais Sofra, Shakadosh Bokhu, Nigla Alecha, Bebetkel. Et à la fin, Kadosh Bokhu, il va se dévoiler à toi, Betkel. Machalif et Shimcha, il va changer ton nom. Et Sham, là-bas, il va te bénir. Vani, et moi, Sham Ehye, là-bas, je serai. Veodé, et je vais te les reconnaître, là-bas, les Brachot. Donc, c'est l'ange de Esav qui parle. Bézé, Shekatou, c'est ça qui a marqué le passage dans le Cher. Vayassar, El Malach, Vayukal. Il a battu le Malach. Bacha, le Malach, il a pleuré. Vaitraneno, il a supplié. Bacha Malach, le Malach, il a pleuré, va Itraneno, il a supplié. Uma Itraneno, et qu'est-ce qu'il a supplié? Betkel Insa, et nous, Vesham Yadabarimano. À Betkel, il va te trouver, il va le trouver. Et là-bas, il va parler avec lui. Ça veut dire, Hamtenli, Achiedaber Imanusha, attends-moi que je parle avec lui là-bas. Mais le Ratsa Yaakov, Yaakov, il n'a pas voulu. Ou Heral Korcho, et contre son gré, Hodalo Aleem, il lui a reconnu le rapport, parce que sinon, il ne pouvait pas rentrer pour faire son service. Vezehu va yvarer oto sham. C'est pour ça qu'il l'a béni là-bas. Chez Ayamitranen Leamchino, parce qu'il le suppliait d'attendre. Velorata, il n'a pas voulu. Comprenez qu'ici, on ne comprend rien. Qu'est-ce qui se passe? On résume. Yaakov bat le malin. Et le tien. Il lui dit, tu bouges pas. Il lui dit, laisse-moi partir, je dois partir le matin et se lever, j'ai quelque chose à faire, je dois rentrer. Il dit non, tu restes là, tu me bénis d'abord. Ça veut dire quoi, tu me bénis? Reconnais-moi les brachot que j'ai pris à Yitzhak et qu'Yitzhak m'a béni et qu'elles ne sont pas Essav. Alors qu'il dit, attends, attends, il pleure. Je supplie, je t'en prie, attends, je vais te reconnaître ça un peu plus tard, là-bas. Il lui dit non, maintenant. Il dit, s'il te plaît, non, maintenant. Il pleure, un malar, il pleure, oui, c'est étonnant, parce qu'un malar, il est toujours en mission pour quelque chose. Il n'a pas tellement de volonté propre, un malar. S'il pleure, c'est que ça fait écho à un pleur qui existe de par ailleurs. C'est pas lui qui décide de pleurer. Donc il le supplie, s'il te plaît, non, 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 non. Lui dit non, tu me donnes les brachot. Et qu'est-ce que ça lui fait à Yaakov d'avoir main dans les brachot? De toute façon, il va lui faire. Enfin, il va lui reconnaître les brachot plus tard. Et qu'est-ce que ça lui change au malheur d'attendre? De toute façon, il va lui reconnaître plus tard aussi. Donc il fait lui tout de suite. Qu'est-ce qui est en jeu dans ce débat-là où il dit s'il te plaît maintenant, il lui dit maintenant, il lui dit non, s'il te plaît plus tard. En tout cas, qu'il le force. Pour Yaakov, c'était essentiel ici d'avoir les brachot tout de suite et de ne pas attendre là-bas. Ça a changé énormément. De toute façon, il ne l'aurait pas fait. Alors, venez, on va voir là-bas. Là-bas, il a dit là-bas. Alors, on va voir là-bas. Alors, là-bas, c'est quel perek? Perek Lamed Hei, pas sous tête. Vayera Elokim, El Yaakov Od, Hashem a apparu à Yaakov encore. Bevo mi Padanaram, quand il est rentré de Padanaram. Vayvare Koto, il l'a béni. Vayomerlo, il lui a dit, Elokim, Shimcha Yaakov, ton nom c'est Yaakov. Loïkare Shimcha Od Yaakov. Il sera pas encore ton élève. Il sera plus qu'Im Israël. Il sera Israël, Yeshemecha. Vayikra Shemo Israël, et il a appelé son nom Israël. Là. Il a dit là-bas. Là-bas, il lui a reconnu les brachot parce qu'il a appelé Israël. En fait, vous avez vu, quand il lui demande de reconnaître les brachot, Il lui dit, comment tu t'appelles Yaakov? Il dit, ça ne sera plus Yaakov, ce sera Israël. Parce que reconnaître les brachot à Yaakov, c'est changer son nom de Yaakov à Israël. Yaakov, c'est le nom qui fait référence à la Akiva, et les choses de manière détournée. Et Israël, c'est Sarah. C'est lui qui est là, il se présente de manière claire, et il est là, il assume totalement tout ce qu'il a. Là, Israël, Israël, c'est un yachar, c'est droit, Akev, c'est tordu. Donc, quand il appelle Israël là-bas, c'est là où il lui dit, je te reconnais les brachot, je te reconnais les brachot. Hachem, il va reconnaître. Et lui, il voulait absolument là-bas. Quand il appelle, quand Hachem, il n'a pas changé encore. Alors, regardez, si vous regardez ce qui se passe là-bas, si on continue un peu à lire le passou, là-bas, avec la Médré. Alors, la suite. Vayomer lo Elohim. Alors, Hachem lui dit, Anikel Shakai, je suis Dieu Tout-Puissant. Réouvé, fructifie-toi. Goy, un peuple, ou Kalgoïm, une assemblée de peuples, Yemimeka sera de toi. Umlachim et des rois, mais Khalat vont sortir de tes entrailles. Vayet Aaret, c'est la terre, Hachanatat, il a Avram ou l'Itzra, à toi, je la donnerai. Ou Zarcha, Acharcha, Aaret, et à ton descendance après toi, je donnerai la terre. Vayaral, Meralav Elohim. Hachem s'est monté de lui. Bamakom, Asher Diberito, à l'endroit où il a parlé avec lui. Yaakov, il a édifié une Matseva. Bamakom Asher Diberito, à l'endroit où il a parlé avec lui, Matseva Taven, donc un autel de pierre. Yasser Hala Neser, il a versé une libation de vin. Yitzok Hala Shamen, et il a versé de l'huile dessus. Yikra Yaakov Etchem Amakom, Yaakov a nommé le nom de l'endroit Asher Diberito Sham, Elohim, à l'endroit où il a parlé avec lui, Bet Kel. Il a nommé Bet Kel. OK? Donc voilà ce qui se passe ici. Yaakov, il dresse un autel et il appelle Betkel. Maintenant, regardez au début de Parashat Vayetse. Début de Parashat Vayetse. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Vaïdar Yaakov Neder Léman. Vous allez voir. Yaakov, il fait un Neder à Hachem. Qu'est-ce qu'il lui dit? Imi Elo qui m'a dit, si Hachem il est avec moi, Ushmarani Baderechazé. Asher, Anochi, Oler, je vais prendre par cœur. Ushmer, Adher, Li, sera pour moi Elohim. Important, on se bien cette phrase. Azot, et cette pierre-là, Asher, Samti, Matseva, que j'ai édifié comme autel, y est Bet Elohim, sera Bet Elohim. C'est-à-dire que cette pierre, cette Matseva-là maintenant, elle sera la maison d'Hachem, elle sera Bet Elohim, Bet Kel. Tout ce que tu me donneras, Aser à Asrenoula. Ça veut dire que Yaakov, il s'engage en Eder, en disant que si Hachem il me protège, qu'il me donne du pain à manger, etc., et qu'il sera pour moi Elohim, alors cet autel, cette pierre-là que j'ai édifiée en autel sera Bet Elohim. Où est-ce que c'est réalisé ce Neder? Ici. Dans le passage qu'on vient de lire. Il a appelé ce Makom Bet Kel. C'est pour ça que ça s'appelle Bet Kel, parce que c'est l'endroit où il y a la pierre. Ça, c'est l'endroit du Beth Amikdash. La pierre, toujours la même pierre, la Ivan Hachitia qu'on a vu la semaine dernière. D'accord? Donc, ici, dans Vayetse, il fait un Neder. Dans Vaishlach, il accomplit le Neder une fois qu'il lui change son nom, après qu'il lui ait changé son nom. Mais attention, par contre, il fallait absolument qu'il ait les brachot avant ce moment-là, entre les deux. Maintenant, il y a un autre passage de Chumash que je voulais voir avec vous. C'est juste avant, quand ils sont finis l'histoire de Shrem, juste avant l'histoire de Shrem, à la fin de l'histoire de Shrem, qu'est-ce qu'il dit à Yaakov Avinu à ses enfants? Il leur dit, Hasiru et kol Eloi anecha, mitochechem. C'est pas souk, Perek Lamedé, pas souk, bête. Vayomer Yaakov el Beto vel kol asherimo, Hasiru enlevé et Eloi anecha, asher betochechem. Veitaharu, ve achlifu simlotechem, ve nakuma ve naale bet kel, ve sesham isberg, laquelle on a aussi bien sarati. Oui, hein. Le déroulé ici, c'est quoi? On résume avant de rentrer dans le sujet. Vous avez le déroulé, c'est quoi? Si vous avez Yaakov, il fait un Eder. Hachem, il sera pour moi Elohim, il va me protéger, etc. Et là, cet endroit, il sera Bet Elohim. Ensuite, il rencontre l'ange, il le bat. Il lui dit, je te laisse pas partir si tu ne me reconnais pas les brachot tout de suite. C'est-à-dire, il l'a appelé Israël, il dit, ton nom sera Israël. Il lui reconnaît tout de suite, mais de force. Ensuite, il est à Shrem. Après l'histoire de Shrem, il dit à ses enfants, on se débarrasse de tous les dieux étrangers. Il y avait quelque chose à enlever. Birou, Avodah Zara. Il y avait un peu Il y avait quelque chose à nettoyer encore chez les Juifs. Et ensuite, il arrive, Hachem, juste après qu'il a fini ça, Hachem, il se dévoile à lui, et il lui dit, il y a l'histoire de Rivka qui est mort, la renouse de Rivka. Et ensuite, quand il est en chemin, il y a Hachem se présente à lui, c'est le même endroit où il était avant, où il y a la pierre. Et là, il lui dit, tu seras à Israël. Les brachot sont pour toi, il lui promet des choses, et là, Yaakov Avinu, il dit, maintenant, ce sera Beit Kali. Maintenant, regardez dans la promesse, dans le Passouk, dans le Périclamédé, Passouk, Yud Aleph. Juste après qu'il a changé son nom, il lui fait des promesses. Il lui fait des brachot. Qu'est-ce qu'il lui dit? Va Yomer le Lokim, Anikel Shakai, tu Dieu tout puissant, Père Ové fructifie, tu vois, Goy, un peuple. Ukhal Goïm, une assemblée de peuples. Yémimé, ça veut dire quoi? Rashi. Goy, un peuple, Binyamin, parce que Binyamin n'est pas encore né. Donc, il lui promet qu'il y aura encore un Chevet qui va naître. Goyim, des peuples. Ménaché, Véphraïm. Ménaché, Ephraïm, parce qu'il aura deux nouveaux Shvatim, qui est Rouben, Shimon, Yehoudi. Ça, c'est le premier pshat. Rashi, à la fin du Rashi Melachim, je l'ai ramené ici. Il dit comme ça. D'avoir à tout à la fin du Rashi Melachim, chez Atidim Banav, le mot goïm ici, ça veut dire goïm qui choudre, c'est-à-dire ses enfants se comporteront comme des goïm. C'est quoi? Chez Atidim Banav, les akrib bechaati sur bamot, que tes enfants, ses enfants, ils vont amener un korban à l'extérieur du Beth Amikdash pendant le moment où c'est interdit d'amener un korban à l'extérieur du Beth Amikdash, donc le Beth Amikdash était construit. Bimé Eliaou, à l'époque de Eliaou, Eliaou Hanavi, il a ramené au Mont Carmel un korban à l'extérieur du Beth Amikdash. Alors, c'est étonnant parce que qu'est-ce que ça fait là, ça ici? Hachem, il est en train de la changer, de changer son nom, de lui faire des brachot, et il lui dit, tu auras un peuple et une assemblée de peuples. C'est quoi, au cas goyim, tu auras, tiens, tes enfants, un jour, ils se comporteront comme des goyim, ils vont amener un corban à l'extérieur à l'époque de Yahya. Bon, c'est un peu étonnant de dire ça ici. Et ouais, c'est-à-dire, pourquoi, quel est le sens de parler de sa mort? Alors bon, on va aller voir là-bas. Je dis, aujourd'hui, on va faire beaucoup de, on va lire beaucoup. Bien, on va avoir beaucoup de choses. Alors, on va voir. C'est Melachim Alef, chapitre 18, c'est marqué ici. C'est vrai, ça? Ouais. Donc, Achav, il dit à Yehoanavi, il lui dit, il lui dit, tu es en train de ça fait 3 ans qu'il a décrété la famine. Il lui dit, tu es en train de détruire le peuple juif. Alors, Eliaou dit comme ça, on va rassembler tout le peuple juif au Mont Carmel. Je lis directement en français. Et les prophètes du Baal, 450, et les prophètes de la Asherah, 400. Och les Shulchan Izevel, ceux qui mangent à la table de Izevel. Donc Achav, il a appelé tous les Bnei Israël, il y avait tout le peuple juif qui était rassemblé là-bas. Il a rassemblé tous les prophètes au Mont Carmel. Il y avait 850 faux prophètes et Eliyahu HaNavi tout seul qui était prophète. Eliyahu HaNavi, il a dit au peuple, jusqu'à quand, Atem Posrim, la fameuse phrase achetée à Seifim, jusqu'à quand vous marchez sur les deux bancs? On ne peut pas danser à deux mariages en même temps. Si Hachem, c'est Elohim, qui Yud Kevavke, c'est Elohim, mais les Chouachara va aller après lui. Mais il m'a Baal, et si c'est Baal, les Chouachara va aller après lui. Et les gens, ils n'ont pas répondu. Ils ne savaient pas, Rachid. Alors Eliaou, il dit, moi, je suis resté Navi à Hachem, tout seul, l'Evadi. Et les prophètes du Baal, ils sont 450. Alors on va prendre deux taureaux, vous connaissez l'histoire. Chacun, il va prendre un taureau, il va poser, il va établir son autel. Et ils vont appeler au nom de leur Dieu, et moi, je vais appeler au nom d'Hachem. Et celui que le feu va descendre, c'est lui qui aura raison. Et les gens, ils ont dit, c'est bien, on est d'accord. Et donc, chacun, il a coupé, etc., des choses. Et il n'y a rien qui se passe. Va écrire au Bekol Gadol. Ils ont appelé avec, ils ont commencé à crier, ils ont commencé à se percer le corps avec des épées, avec des flèches, avec des lances, chaque le sang, il coule. Ils ont crié, crié. Rien se passe. Maintenant, il y a oui, dit, maintenant, rapprochez-vous de moi. Il a mis de l'eau. Regardez ce passage. Eliaou, il a pris Shtem 12 pierres, Yaakov, comme le compte des enfants, des tribus des enfants de Yaakov. Aïe, Asher, Aya, Devar Hashem, Elav, les morts, que Hashem lui avait dit à Yaakov, Israël, et Shemira, ton nom sera Israël. Vous avez vu la référence? Rachid Ramen, elle est là dans ta vie. Vaïvne et Avani Misbéar Beshem Hachem, il a construit le Misbéar. Vaya, donc il a fait une grande tranchée, il a mis plein d'eau. Et après, le feu d'Hachem est tombé. Et ça a même pris l'eau, quoi. Et il dit, on avait Aneni Hachem, Aneni. Veyadoua Amazé, ils seront ce peuple-là. Kiata Hachem, Ha'elokim. Vatipol Esh Hachem, le feu est tombé, il a pris, il a mangé le corban, le bois, les pierres, la terre et l'eau. Tout ensemble, il n'y avait plus rien. Tout a été pris. Et tout le peuple, ils ont vu ça, Vaïpouaznem, ils sont tombés sur leur visage, ils sont prosternés, ils ont dit Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim. Ça, c'est ce qui se passe là-bas. Alors, on va faire maintenant une digression. Comme on commence à avoir l'habitude dans les chemins de Shapira, il y a toujours un chemin qui est long dans la question à la réponse. On va essayer de définir c'est quoi Hachem, Yud-Kevavke, et c'est quoi Elohim. Parce que vous avez vu dans Yaakov, il dit quand Hachem sera Elohim, il y a Hachem li, il est Elohim. Et ici aussi, il leur a dit reconnaissez que Hachem, c'est Elohim. Ils ont dit Hachem ou Elohim. Hachem, c'est Elohim. Si Hachem, on sait, mais Elohim, c'est pas sûr. Enfin, c'est quoi ce distinguo entre Hachem et Elohim? Alors, le nom de Havaya dans la Torah, il faut savoir, nous, comme vous savez, on ne le prononce jamais. Quoi? J'ai ramené la référence, c'est un Rashi dans Shmot, c'est une Mara dans Psachim. C'est marqué Jze Shemi Le'olam, Vezé Zichri, et Dordor. Jze Shemi Le'olam, dans le mot Le'olam, il n'y a pas de Vav. C'est Le'olam, ça veut dire il est caché. Ça veut dire qu'on ne peut pas le lire comme il est écrit. Ma'apshat. Le Shem Havaya, vous voyez, dans le mot Havaya, dans le mot Yud Kevavke, on entend Havaya. Havaya, c'est l'existence, c'est l'être, l'existence. En fait, le principe du nom de Havaya, c'est le nom qui représente l'existence même. Pas comment elle s'exprime, mais l'existence même. Ça veut dire que quand on parle d'Hachem en tant que Yud-Kevavke, en tant que Havaya, c'est-à-dire que c'est le seul être qui existe vraiment, et nous, on n'existe pas vraiment, dans le sens où on n'a pas une existence propre, on a une existence relative. La seule existence réelle, c'est celle d'Akadosh Baroukh Hou. Mais ce nom, il ne se dévoile pas sur Terre, c'est impossible. Parce que si ce nom, il se dévoile, il n'y a pas de place à la prira, il n'y a pas de place au libre arbitre, il n'y a pas de place à la Avodah Zara, il n'y a de place à aucun choix. Parce que le dévoilement de ce nom, s'il se dévoile dans le sens, si cette façon de vivre, elle était imposée par Akadosh Baroukh Hou, ou c'est la seule chose qui existe, c'est la Havaya lui-même, limite, on ne pourrait même pas exister en même. Parce que là, parce qu'il y a quelque chose beaucoup qui existe. Alors les gens, ils disent, c'est là, quoi, c'est pas possible. En fait, dans ce monde-là, le nom qui existe, qui correspond à ce que nous on vit, c'est Elohim. Elohim. Elohim, vous savez, c'était Gematria Teva, tout le monde connaît. Maintenant. Donc en fait, si on définit ça en une phrase, le Shem Havaya, c'est la source de l'existence, mais pas l'expression de l'existence. L'existence elle-même, comment nous on la vit sous forme de Elohim, on ne la vit pas sous forme de Havaya. Et on ne peut pas le prononcer, on ne peut pas le vivre comme ça. Il n'est pas vécu par personne. C'est impossible. Havaya avec le vrai nom. C'est ça qu'on l'appelle Adonai. Deshemi Le'olam, c'est quelque chose qui est caché, qui est distinct. Et Elohim, c'est quoi? Alors regardez, j'ai ramené pas mal de références que je n'ai pas ramenées, parce que ça faisait beaucoup, ça fait ramener des psaumes, mais il fallait écrire le nom d'Hachem. Et j'ai pas trouvé le nom d'Hachem qui était pas bien, qui était mis avec un kouf, donc j'ai juste ramené les références. Alors, Bereshit 3.5. Vitem ke Elohim yodet tovara. Il dit, si vous mangez aussi le Etz Hachaim, vous allez être comme des dieux qui mangent, qui connaissent le bien et le mal. Si vous mangez le Etz Hadat, pardon. Vitem ke Elohim yodet tovara. Targum, il traduit Ravrevaya. C'est pas un Shem Kodesh, un Shem Chol. Ça veut dire que c'est des gens puissants. Ensuite, vous avez Shemot 22, 8 et 22, 27. Shemot 22, 8, c'est Ad, Asher, Ad, Asher Yarchiou, Elohim, Yishalem, Shnaim, Yireou. Donc, c'est les Dayanim là-bas. Targum, il traduit Dayanaya. Et aussi 27. On peut plus. Et dans les 10 commandements, Lo Yelecha, Elohim, Achirim, c'est des autres dieux. Donc, c'est-à-dire qu'Elohim, ça fait référence à des gens puissants, à des Dayanim, à des Malachim, souvent on voit, c'est un Malach qui apparaît sous le nom de Elohim dans la Torah, et aussi à la Avodah Zara elle-même. Le nom de Elohim, il fait référence à beaucoup de choses. Il n'est pas spécifique à Kadosh Baroukh Hou. C'est juge. Hein. C'est juge, exactement. Il y a le nom Kel aussi. Le nom Kel dans la Torah, on le trouve aussi sous plusieurs formes. Alors, un qui est très éloquent, c'est dans la fin de la paracha de Vayetse. Il a dit Lavan à Yaakov, Yesh le El Yadi la Asot Machemra. Et Rachid dit Yesh le El Yadi. C'est quoi Yesh le El Yadi? Rachid dit Koach, j'ai la force. force de faire du mal. Faire du mal. Le mot elle, le mot elle, c'est une force. Et qu'elle, dans la Torah, lo yebecha elzar, Dieu étranger. Et Hachem aussi, c'est un des noms d'Hachem, qu'elle. Donc, on voit que les mots Elohim, qui est au pluriel, et quel, qui est le singulier de Elohim, ça fait référence à tout ce qui a du pouvoir en vérité. Toutes les forces qui existent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, dans le monde, dans ce monde-là, il y a beaucoup de kochot, il y a beaucoup de choses qui ont du pouvoir. Le etzem, le ce qui a le plus de force, c'est les kochavim, c'est ça qu'on appelle avodat kochavim. En tout cas, toute chose qui possède une force, un dayan, un ange, un homme fort, comme Laval, il a du pouvoir et ça, on peut l'appeler elle. On peut l'appeler elle. Le Elohim, c'est le monde qui se présente sous une forme où il y a énormément de choses qui ont du pouvoir dans ce monde-là. Ouais. Et le Shoresh de l'Avodah Zarah, il est dans le nom de Elohim. C'est pour ça que l'Avodah Zarah s'appelle Elohim. Parce que l'Avodah Zarah, c'est d'attribuer une force indépendante à une chose qui n'en a pas. C'est-à-dire de croire que les choses ont une force qui leur appartient à elles-mêmes, alors que c'est qu'elles sont toujours soumises au pouvoir d'Akadosh Baroukh. Dans le Shulchan Aruch, c'est marqué, c'est quoi, quand on parle d'Hachem, c'est pas la Kavana, Elohim, Takif, Baal HaYecholet, Baal HaKorot Kulam. C'est celui qui est Baal HaKorot Kulam, celui qui possède toutes les forces. Et il y a des forces, il y en a plein. Il y a plein de choses qui ont du pouvoir sur Terre. Ça peut être pas forcément un pouvoir avec une conscience. Hein. Ce qui donne la lumière. Vous savez, dans la culture extrême orientale, ils ont chaque Avodah Zarah, ça correspond à une force. Il y a l'eau, la terre, la mer, le feu. En fait, chez eux, ils ont fait des dieux, quoi. On dit des dieux, en fait, c'est des forces. En fait, ils attribuent énormément de force à énormément de choses avec un Shoresh Rouhani, avec une source spirituelle à chaque chose, ce qui est vrai, en vérité. Ça existe, le malheur de l'eau, le malheur de la mer, de la terre. Tout ça existe. Mais ils leur ont accordé une existence propre, ils l'ont déconnecté d'un créateur. Ça, c'est le Shoresh de l'Avodah Zarah. Et le nom Elohim qui est rattaché à Kadosh Baroukh, c'est de reconnaître qu'il est le maître de toutes les forces. Le nom Elohim détaché d'Akadosh Baroukh, ça devient Elohim, c'est de le déconnecter du monde. D'attribuer le pouvoir à ceux qui l'exercent. Non, mais un peu plus loin. Dans le Zohar, au début, dans l'Agdama, c'est marqué que Elohim, c'est un mot qui peut se séparer en deux. Il peut se séparer en mi et elé. Qui est cela? C'est-à-dire, en vérité, il y a elé. Il y a cela. Et après, il y a le mi, c'est qui? Si on s'arrête au Elé, on coupe le nom d'Hachem. On dit, il y a ce chose-là, ça existe. Alors, on met pas le mi, si on dit, mais qui c'est qui domine tout ça? Qui c'est qui maîtrise tout ça? On arrive à la Hazara. Si on rajoute le mi, le Elohim, on reconnaît, on essaye de prendre conscience d'où les choses elles viennent, alors là, on est dans le nom d'Hachem. Dans le passage que j'ai marqué, hein, le passage, c'est où Marom Enechem, ou mi bara Elé. Roumi Baraélé. Levez les yeux au ciel et regardez qui a créé cela. En fait, la vraie compréhension du Shem Elohim, elle vient quand je lève les yeux au ciel et je me demande, mais qui c'est qui a créé cela? Pourquoi au ciel? Parce que les Avodat Kochavim ou Mazalot, les vraies sources de pouvoir, c'est-à-dire la racine des forces de pouvoir dans cette banque. Là, c'est la racine spirituelle, elle se trouve au niveau des Mazalot et des Kochavim. Donc quand je lève les yeux au ciel, je regarde les Mazalot et les Kochavim, je dis, mais qui, mi Baraélé, qui c'est qui a créé cela? Mais si je ne me pose pas la question, je dis, il y a cela. Alors c'est fini. J'ai cassé le ribour qu'il y a dans le Elohim et j'ai cassé le lien qu'il y a entre Elohim et Avaya. Je n'ai pas connecté le nom d'Elohim avec le Yud Kevatu. Je les ai complètement déconnectés, j'en ai fait une existence propre. Et le Gaon de Vilna, il dit que c'est ça qu'il y a dans le Hetta Hegel, c'est très beau. Il dit le Hetta Hegel, ils ont dit les Mizahav, à qui il y a de l'or. Ils ont mis les Mi et après ils ont dit Elohecha Israël, Hashem. Voici les dieux. En fait, ils ont pris le Lémi et ils l'ont déconnecté du Elé, ils ont cassé le lien qu'il y avait entre les deux, c'est ça qui a amené le Hetta Hegel. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont fait avoir, ils ont reconnu une existence propre à des choses qu'ils n'en avaient pas. Pourquoi c'est arrivé comme ça? Ça, c'est l'yesod du Elohim. C'est pour ça qu'il y a un roche, je n'ai pas trouvé pour le ramener ici. Dans le Baal HaKorot, le roche, dans Yoma, il ramène Rambam Shapira, il dit que Yud Kevav Ke, c'est le Shem, que c'est né de Salim, et nous connaissons chez moi. J'ai vu un Zohar tout à l'heure, j'ai tapé sur un an, j'ai trouvé un Zohar qui disait ça. Le nom Yud Kevav Ke, c'est le nom de tous les noms d'Hachem, il découle. Parce qu'en fait, tous les noms d'Hachem dans ce monde-là, quand on parle d'un nom, un nom, c'est quoi? Un nom, c'est quand j'appelle quelqu'un d'une certaine manière, j'appelle le boulanger, ça correspond à une certaine, à ce qu'il est, à ce qu'il fait. Ça peut être un nom, un surnom par rapport à une côté amicale. Il y a plein de noms qu'on peut donner à une personne par rapport à un état dans lequel je veux le définir. Les noms d'Hachem ont été dans ce monde. Oui, chaque nom qu'il y a dans la Torah, Ça correspond à un certain comportement d'Hachem, une certaine expression d'Hachem, comment il s'exprime dans le monde. L'Oriyud Kivavke, lui, il est complètement né là, il est caché. Non. En réalité, tous les noms d'Hachem, ils découlent du Kivavke. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le Yud Kivavke, qui est l'existence même des choses, que le fait qu'Hachem existe et qui donne une existence aux choses, que ça, c'est en dehors de notre Asaga, en dehors de l'appréhension des sens qu'on peut avoir. Mais tous les autres noms d'Hachem, ils découlent de ça. C'est-à-dire, d'abord, il y a l'existence, il y a la volonté créatrice, etc. Et ensuite, il y a comment les choses s'expriment. Et le plus bas de tout, c'est Elohim. On voit qu'il est utilisé même pour la Vodazara. Le plus haut de tout, c'est Yud-Kevavke. Et entre les deux, il y a pas mal d'autres noms. Qu'en vérité, quand Eliyahu HaNavi, il leur fait dire Hachem ou Elohim, il leur fait reconnaître que Hachem, il est Baal Korot Kulam, tout simplement. Il leur fait reconnaître qu'en vérité, vous accordez, vous faites tout à Vodazara, vous êtes proscrit, acheter ses filles. Il y a Hachem et Elohim. Parce que ça, en fait, ils courent après la Avodah Zarah en sens, ils accordent à la Avodah Zarah une existence. Mais quand ils voient le Nez qui s'est passé, ils reconnaissent, ils disent Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim, Hachem c'est le Elohim. Il faut bien comprendre que cette notion de Emouna, en vérité, nous on croit que ça a l'air simple comme ça, mais en vérité, la majorité, 99% des gens, ne sont pas Shalem avec ce Hachem ou Elohim. Parce qu'en réalité, si on était tous Shalem avec le Hachem ou Elohim, ça ne laisse pas de place à autre chose que la Avodah Hachem. Quelqu'un qui arrive, quelqu'un, il doit se travailler tellement jusqu'à qu'il arrive à s'enlever un peu le libre arbitre, à devenir quelqu'un qui fait pleinement conscience de ça, alors il peut être un grand Oved Hachem. Mais quelqu'un qui a toujours, qui a l'impression que les choses, elles sont autonomes, alors elles sont indépendantes, elles sont autonomes. Hachem, il leur demande d'être autonomes, mais elles ne sont pas indépendantes, alors l'erreur, elle peut être très très fine, et donc ça laisse la place à d'autres choses. Personne. Et qu'est-ce qu'il y a comme Avinu, il dit, quand il dit Aya Hashem li l'Elohim, c'est-à-dire que quand Hashem il sera pour moi un Elohim, quand Hashem il sera pour moi, j'aurai fait la connexion totale entre Hashem et Elohim, Aya Hashem li l'Elohim, alors là, Ve'aven Azot Hashem, là, il est Bet Elohim, c'est-à-dire qu'il pourra prendre le Bet Amidash, l'endroit de la source, la racine du Bet Amidash, et dire ici cette pierre, c'est Bet Elohim, c'est la maison d'Hashem, ça y est, on a réussi à intégrer sur terre la nation d'Hashem. Totalement la notion d'achat. Mais ça, il le fait après, pas au moment où on le dit pas avec l'âme, après. Et c'est ça, ouais. Il le fait après. Maintenant, ici, là, comment ça s'exprime dans notre paracha à nous? Ça s'exprime avec. Qu'est-ce qu'il demande à l'ange? Maintenant, on revient à notre sujet. Qu'est-ce qu'il demande à l'ange? Il demande à l'ange, reconnais-moi les brachot tout de suite. Et il lui dit, tu t'appelles Israël. C'est quoi Israël? C'est pas très dans le passé, le chat du mot Israël, Sarita et Elohim, ou je ne sais pas comment est-ce que c'est connu, je pense que c'est Paul. Mais Manashim va tout prendre. C'est-à-dire, tu t'es battu avec tout le monde et tu as réussi. Et il lui dit, reconnais-moi maintenant, pas plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire le fond de Israël? Israël, ça veut dire qu'il se bat avec tout le monde et il y arrive. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un juif, il peut se battre avec tout le monde et il gagne à la fin? On ne parle pas de faire la guerre. On parle dans la plénitude des choses. Ça veut dire, la Gemara, elle nous ramène dans Sanhedrin, même Dalet à Moudalet. Chata Israël. Un Israël qui faut, il reste. Il y a quoi un Israël qui faut, il reste Israël? C'est-à-dire qu'un juif, même s'il s'éloigne au plus profond de l'abîme, le fameux livre, au plus profond des abîmes, il reste toujours Israël. C'est quoi il reste toujours Israël? Il y a une inaltérabilité de cet héritage que Yaakov Avinu nous a laissé de Israël. C'est-à-dire que cette capacité de combattre Elohim Vanashim, c'est-à-dire quoi Elohim Vanashim? C'est-à-dire toutes les forces qui peuvent exister sur Terre. C'est-à-dire de reconnaître que toutes ces forces-là, elles sont pas indépendantes et de réussir à se réveiller vers la Tshuva et se dire il y a que Akadosh Baruch Hu, de se rattacher à Akadosh Baruch Hu. Ça, le juif, il possède toujours. C'est pour ça que Israël se rattache à Israël, où il restera toujours Israël. Parce qu'en lui, il a toujours cette capacité-là de revenir à Kadosh Barouh. Ce n'est pas possible de lui effacer ça à l'intérieur de lui. Ça n'existe pas. Ça, c'est l'héritage qu'il a commis de laisser, et c'est ça le Shem Israël qu'il a laissé. C'est impossible de lui enlever ça. C'est vrai que j'appelle ça inaltérabilité, parce que c'est comme le sel. Ça ne peut jamais perdre. Ça, il ne peut jamais le perdre. Ça peut être caché, 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 mais il ne peut jamais le perdre. Un juif, il restera toujours un Israël. Pas un juif, un Israël, il restera toujours un Israël. Et c'est pour ça que la véritable réalisation du Shem Israël, c'est après le Hasiru et Elohim, quand il leur a dit Hachem, enlevez tous les dieux étrangers d'entre vous, ça veut dire quoi enlever tous les dieux étrangers, quoi, ils faisaient Avodah Zarah, Pachu, c'est que les idoles qu'ils avaient récupérées à Schrem quand ils avaient pris le butin. Mais Pimi Utadvarim, ça correspond aussi à la conscience, la pleine conscience des choses. Ils n'étaient pas arrivés à une pleine conscience totale, en tout cas dans sa descendance. Lui, peut-être, il a quand même été arrivé, mais pas à sa descendance. Parce qu'il a dit à ses enfants, lui, il n'avait pas besoin. Lui, il avait besoin. Et donc, une fois qu'ils ont réalisé ça au niveau de sa descendance, qui est la racine du peuple juif, les 12 Shvatim, alors là, Hachem, il lui a donné le nom de l'Israël pour lui et sa descendance. Mais lui, il avait déjà demandé avant le nom de l'Israël. Il n'avait pas demandé. Alors, pourquoi Yaakov, il se bat avec Essa? Maintenant qu'on a dit ça, on va comprendre. Pourquoi Yaakov, il se bat avec l'ange de Essa? Qu'est-ce qu'il veut chez lui? À quel moment d'abord il se bat? On le sait tous. Il est resté tout seul. Il va faire Yaakov Levado. Il va avec Ishimon de la Tachacha. Qu'est-ce qu'il est parti faire tout seul? Rashi, il dit, il est parti chercher et les Parimtani, les fameuses petites cruches. Fameuses petites cruches. Et à ce moment-là, l'ange de Essa, il attaque. Pourquoi à ce moment-là? Parce qu'il est seul, c'est vrai. Et pas seulement parce qu'il est seul. En Moshe, ce qui va être Mechadesh, c'est qu'il est parti l'empêcher de récupérer les pieds. Ça, il voulait pas qu'il fasse. Ça, tu prends pas. Tu laisses les pieds. Ça veut dire quoi, laisser les petites cruches? La Torah, elle parle dans le langage de la Torah. La Torah, elle te parle toujours. Elle te parle toujours dans la réalité basique, mais elle fait toujours écho à des choses qui sont fondamentaux. Fondamental. Alors Moshé, il dit sans vouloir avec ces personnes, les petites cruches, c'est nous. Dire quoi? C'est-à-dire que Yaakov Avinu, en vérité, quand il va récupérer les petites choses qui n'ont pas de valeur, en vérité, il va récupérer les juifs qui n'ont pas de valeur. Il va récupérer les juifs qui sont loin ou qui sont dans les générations, les dernières générations, qui sont des juifs qui sont, en vérité, qui n'ont pas un niveau spirituel comme les générations d'avant. La génération des générations du Mashiach et les juifs qui sont fauteurs de manière générale, c'est eux qui va récupérer. Pourquoi? Comment on peut se permettre de dire que les petites cruches et les juifs sont valeurs? Pshat, il est comme ça. Et ça, c'est un truc extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Yaakov Avinu, nous, on s'appelle, dans le passage, Nachitza Katson, je fais le passage dans Tehilim, Nachita Katson Amecha Beyad Moshe Ve'aron. Nachita, tu as conduit comme un troupeau ton peuple. Nous, on s'appelle troupeau. Et le Midrash, à la fin de Parashat Vayetse, dit que quand Yaakov, il est sorti de chez Laban, celui-là, il avait 120 000 chiens ou 600 000 chiens. 600 000 ou un demi-million 200 000 chiens. C'est-à-dire que c'était les chiens qui dirigent le troupeau. Chaque partie du troupeau, il avait un chien. Par le cas, puisqu'il y avait deux chiens sur chaque partie du troupeau, un chien. Mais en tout cas, il y avait 600 000 troupeaux. 600 000 Edretson. 100 000 parties dans le troupeau. C'est quoi, il y avait 600 000 troupeaux quand il est sorti de chez Laban. C'est-à-dire que Yaakov Avinu, quand il est sorti de chez Laban, il a pris avec lui tout le clan Israël. C'est-à-dire il s'est tellement investi dans la construction du clan Israël que tout ce qu'il a acquis, chaque troupeau de Yaakov Avinu, en réalité, c'est comme ça qu'il fabrique le peuple juif. Dans le langage de Chazal, on voit par exemple le Mikneu à sa Soukhot, et à son troupeau, il a fait des Soukhot. Il y a un tour qui dit comme ça. Veshamati, regardez le tour ici, je vais ramener dans les commentaires, à l'avant-dernier. Veshamati, Me'achi Ari, donc c'est le tour Rabbi Yaakov, Ben Avi Ben Arosh. Il veut expliquer pourquoi les femmes ne travaillent pas à Rosh Kodesh. C'est dans Siman Tafutzaïn, dans les femmes à Rosh Kodesh. Il dit, j'ai entendu mon frère, une explication. Les fiches à moi dit, parce que les fêtes, dites Kenu Kenegadavot, elles ont été instituées par rapport au Avot. Pessah Kenegadavra, dirent-ils, Lushiva Asiugot. Ou Pessahaya, c'était pendant Pessah. En fait, c'était des matins. Jvuot Keneged Shavuot Kenegadistra. Quoi? C'est Tkiat Shofar chez le Matan Torah. Parce que le chauffard de Matan Torah, il y avait chauffard, mais l'eau chez l'Israël. Soukot, Kenegad Yaakov, dirti, ou le Mikneu, à sa Soukot. Après, dans la parache. Il est parti de Shrem. Après, il a eu la promesse d'Akadosh Baroukh Hou, il avait changé. Après, c'est marqué, il est resté 18 mois là-bas, à Soukot, et il a fait des Soukot. Et donc, c'est de là que c'est sorti. C'est qui Mikneu, à sa Soukot? Et à son troupeau, il a fait des Soukot. C'est qui son troupeau? C'est nous. Parce que c'est de là que la sphère de Soukot, elle nous vient. Donc, à son troupeau, il a fait des soukhot. On a vu. Son Amécha, on est considéré comme un troupeau. Et il est sorti avec 600 000 troupeaux de chez Laban. Il est sorti avec tout le potentiel de l'Israël. Il avait enraciné. Il avait déjà tout préparé. Et pourquoi les femmes? C'est déjà ce que notre sujet m'a fini. Mais Yudbed, Rashi, et 12 Rosh Chodesh de l'année. Chez Gam, Hem, Nikraïm, Moed, parce que le Rosh Chodesh s'est appelé aussi Moed, parce qu'on Kara, là, Moed. Je peux avoir courage. C'est par rapport aux 12 tribus, quand ils ont ôté au veau, Nitoumem, on leur a enlevé. Mais Nitoum les Neshotem, on leur a donné à leurs femmes. Les Echer Shloyom et Doanet, les femmes n'ont pas participé. Et Rosh Chodesh, c'est par rapport aux 12 tribus. Les 12 tribus ont fauté, mais les 12 tribus chez les femmes n'ont pas fauté. Donc on a donné les Rosh Chodesh aux femmes pour montrer qu'elles n'avaient pas fauté. Mais ce qui est intéressant ici, c'est donc en fait ce qu'on est en train de dire, c'est que Yaakov Avinu, quand lui, il a investi quelque chose, il a investi une force, c'est-à-dire ces cruches-là, elles vont bien sortir quelque part, si ils sont chez lui, les cruches. C'est bien qu'à un moment, il les a fabriquées, il les a achetées, lui ou ses serviteurs, ou quelqu'un dans sa bon, qui l'a ramené dans sa possession. Elles ne sont pas tombées du ciel. À moi, à ce que elles sont pas tombées du ciel, ces cruches. C'est-à-dire que quelque part, il y a une partie de la force de Yaakov Avinu, une partie de l'investissement dans la vie de Yaakov Avinu qui est dedans. Et ce qu'on montre, ce qu'on veut dire ici, c'est que l'investissement, chaque kohar que Yaakov Avinu il a mis dans sa vie, c'est ça qui fabrique le peuple juif. Il y a 600 000 parce qu'il a travaillé pendant tout ce temps-là chez Lavan, jour et nuit sans s'arrêter. Mais Chol travaille de toute ma force. Yaakov Avinu, c'est lui qui travaille de toutes ses forces. C'est lui qui perd, c'est celui de toute sa vie, le seul être sur terre théorique qui n'a pas perdu un instant dans sa vie qu'il n'a pas travaillé. Il a travaillé, ça veut dire qu'il n'a pas investi ses forces pour construire quelque chose. C'est marqué Réhouven, Kori, Vereshitoni. Laura Kerim Yamal, il s'est marié à 86 ans, il n'avait jamais vu une goutte de Kéri. C'est le seul sur lequel on dit ça. Il n'a jamais vu une goutte. C'est-à-dire quoi? Il n'a jamais perdu du zéra. C'est-à-dire qu'il n'a jamais perdu une descendance qui s'est échappée de lui. Tout ce qu'il a, tout le potentiel de descendance qu'il avait en lui, il l'a intégré comme il fallait. C'est-à-dire qu'il a comme ami, nous, toute sa vie, il a travaillé pour construire le clan d'Israël et il n'a jamais perdu une seule forme. Donc ces paribitanim-là, ces petites cruches qui valent rien, en réalité, c'est une partie de sa force, c'est une partie de son investissement dans sa vie, même si ça n'a pas de valeur, c'est une partie de son investissement. Et ça correspond à quoi? Ça correspond aux juifs de peu de valeur. Parce qu'on a dit que les investissements de Yaakov Avinu, en réalité, c'est ça qui construit l'Israël. Et donc, les petites cruches, c'est les juifs sans valeur. Et ça, il ne voulait pas les laisser. Et l'ange de Esaü, il voulait qu'il les laisse. C'est pour ça qu'il est venu battre avec lui. Il a perdu. Et Yaakov Avinu, tu ne partiras pas tant que tu n'as pas reconnu les bras. C'est-à-dire quoi? Tant que il ne voulait pas lui laisser la possibilité de dire que cela, il m'appartient. C'est à moi et à moi. Et ne dis pas que je les ai pris. De manière détournée, mais même ceux-là, je veux que tu me reconnaisses, je les ai pris comme il faut. Même ceux-là, ils m'appartiennent de droit et de manière dévoilée, ça veut dire, et je les ai pas eus de manière détournée. Parce que il y a quand même un Avinu plus tard, quand il va être avec, quand Hachem va lui accorder son nom Israël, à Kadosh Baruch Hu, c'est après un processus de purification en plus de la Sivut qui se sont débarrassés complètement de la Avodah Zara. Donc là, c'est Israël sont au top niveau de sa vie. C'est-à-dire il est arrivé à un niveau d'élévation ultime et là, il n'y a rien qui blesse. Et à Kadosh Baruch Hu, il donne son nom à Israël. Mais ici, où il va chercher des paritanis, il les a oubliés. Pourquoi il les a oubliés? Il y a quelque chose qui s'est perdu, on dirait. Ils ont tout pris. Ça, ils ont laissé. Pourquoi ils ont laissé ça? Okay, bon, on peut toujours dire une histoire pour raconter les scénarios qu'on a envie, en vérité. Il a laissé parce qu'ils ont oublié. Ouais, bon, pourquoi ils ont oublié que ça? C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on veut nous dire ici, c'est qu'il y a quelque chose, il y avait une déperdition possible. C'est-à-dire qu'en vérité, Yaakov Avinu, il n'était pas arrivé au bout de la chose. Il n'a pas hérité du monde d'Israël total. Et il y a quelque chose ici qui s'est perdu. Et il est reparti les chercher. Et là, l'ange de Esav, il ne le laisse pas. C'est à moi. Ça, tu me laisses. Ça, tu ne vas pas m'enlever. Tant que okay, tu as pris les brachot, tu as pris tout, mais ça, tu me le laisses. C'est-à-dire quoi? Ça, tu me le laisses par rapport. En lien avec ce qu'on a expliqué tout à l'heure, vous allez voir comment ça se lit bien. Ça veut dire qu'en fait, le nom de Israël, c'est quoi? Le nom d'Israël, c'est qu'un juif, quoi qu'il fasse dans sa vie, quoi qu'il chute pas, eh bien, il restera toujours Israël, c'est-à-dire qu'il a toujours la possibilité de se battre avec ses événements et d'arriver à Azrat Hashem, c'est le nom d'Israël. Sarita, mais ça, et ça, il voulait surtout pas que ce soit total chez tous les descendants de Jacob. Il dit au moins ceux qui sont sans valeur, ceux qui sont très faibles, ceux qui sont épargnés du peuple juif, ceux-là, je ne veux pas qu'ils aient mis Israël. En fait. Ceux-là, ils n'ont pas mis Israël. Ceux-là, ils peuvent se perdre et arriver chez moi. C'est-à-dire qu'en réalité, le juif qui est inaltérable, il voulait qu'il y ait une limite à ça. Il ne voulait pas que ce soit quelque chose qui s'applique à tout le monde. Et il a pleuré. Il pleure, il le supplie, mais laisse-les-moi, laisse-les-moi. Jacob, il dit non, je te laisse. Et pourquoi il pleure? Parce que ça fait référence en vérité aux pleurs de Essa, qui a pleuré quand son père il a donné les brachot à Yaakov. Il a tout perdu à ce moment. Et lui, il pleure Essa. Et ce pleur de Essa, c'est le pleur de son ange. C'est la même chose. C'est-à-dire que ça fait écho aux pleurs de Essa, que Essa, quelque part, il voulait garder quelque chose. Il voulait garder un petit peu de l'héritage de Yaakov. Il ne voulait pas qu'il prenne tout. Et il dit, bon, ok, les tzadikim, tu les prends, mais les autres, laisse-les-moi. Laisse-les-moi.
Moi aussi, j'ai une part dedans.
Rien du tout. C'est ça le chat de Assio. Regardez, on va aller un peu plus loin, même dans Yaakov Avinu, que c'est fort. Son investissement, c'est le clavier. Alors, ça, c'est un chidouche. C'est une gemara que tout le monde connaît, qui est très étonnante. On va essayer une interprétation nouvelle. La gemara et la boubette. Achri Amar Rabbi Yochanan. Yaakov Avinu, l'omet. Yaakov Avinu n'est pas mort. Amarlé lui a dit, Birdi, est-ce que c'est pour rien? Est-ce que ça veut dire que ça ne représente rien? Savdou Sabdanaya, qu'on lui a fait un espède, les Khan Tokhané, on l'a embaumé, les Kamou Kibaraya, qu'on l'a enterré, on l'a enterré mort. On l'a embaumé mort, vivant, on l'a enterré vivant, comment tu expliques ça? À Marley, il lui a dit, Mikra Nidoresh. Moi, j'ai un passou que je fais un rachat sur un passou. Je n'ai pas. Béata, n'aie pas peur, mon serviteur Yaakov. Béal Israël, n'aie pas peur Israël. Kéni Moshiacha, Mirachok, je te délivre de loin. Betzaracha et ta descendance, Meiret Shivia. De leur terre de captivité. C'est marqué toi et ta descendance. Je te délivre, toi et ta descendance. Comment il délivre Jacob? Jacob, il est mort. Makishu les Zaro. Alors il dit comme ça, on fait un lien entre lui et sa descendance. Mazaro Bachaim, de la même sa descendance et l'envie. Afu Bachaim, lui aussi l'envie. D'accord. Il y a plusieurs interprétations. Moi, il y en a beaucoup que je ne comprends pas. Celle-là, je la comprends. En tout cas, elle a du sens. Celle de Rama Shapira. C'est dit, en fait, Yaakov Avinu, il est vivant à travers nous. Parce qu'on a dit, chaque koar que Yaakov Avinu dans sa vie a investi, c'est une partie de sa descendance. C'est le clan d'Israël. Donc, en réalité, puisque lui, il n'a jamais perdu un instant dans sa vie, il a jamais, Bechol Kori, Yaakov Avinu, ce qu'il définit, c'est Bechol Kori, Réchit Kori. C'est-à-dire qu'il n'a jamais perdu aucun koar qui est parti, qui s'est dispersé. Alors, de la même manière, sa descendance et l'envie, on est tous un petit peu chacun une partie de la vie de Yaakov Avinu. C'est-à-dire que si on faisait ça de manière, on exprimait ça de manière, on va dire, scientifique, entre guillemets, on dirait, voilà, dans sa vie, il y a eu 130, 147 ans, pardon, et chaque seconde de la vie de Jacob avec nous, bah, c'est un juif, tu vois, on fait des statistiques comme ça. Là, son investissement à ce moment-là, eh ben, ça produit un juif. C'est-à-dire qu'on est tous une partie de l'investissement de la vie de Jacob. En réalité, c'est vrai pour tout le monde. Pour tout le monde, ses enfants, sa famille, etc. Mais chez tout le monde, il y a de la perte. Chez tout le monde, il y a des moments où il ne travaille pas. Et pas que des moments. Hein. Ça serait bien qu'il y ait des moments où on travaille. Mais chez tout le monde, il y a des moments qui sont perdus. Et chaque moment perdu, c'est une partie de sa vie qui est perdue. Et donc, quand la personne quitte le monde, ben, cette partie-là, elle n'existe pas. Elle s'est évanouie. Mais Yaakov Avinu, il n'a jamais perdu un seul instant dans sa vie. Il a toujours travaillé à 100% de ses capacités. Et donc, et c'est que comme ça qu'il peut construire le clan d'Israël. Et c'est pour ça qu'on considère qu'il est encore en vie. Parce que de la manière, ses descendants sont en vie, lui aussi en vie. Chaque instant de sa vie, il se réalise à travers lui. C'est pour ça qu'on parle pas juste que lui il est en vie. Non, puisque sa descendance est en vie, alors lui aussi il est en vie. Donc pour revenir à ce qu'il a dit, à ce qu'on a dit que Rashi dit que ce sera des goyim. Goy ou Kal Goyim, ce sera un peuple et une assemblée de Goyim. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont se comporter comme des Goyim. À cette époque-là, avec Achav, c'était vraiment qu'ils étaient Avodah Zara dans tout le peuple juif. Il n'y avait que des Nevi'im à Baal, il y avait tout le peuple qui était là. Et il leur a dit, jusqu'à quand vous marchez sur les deux côtés? Jusqu'à quand vous êtes à droite et à gauche? Ils ne savaient pas répondre, tout le peuple. Et lui, c'était Notartinavi, l'évadi. D'ailleurs, on pourrait faire beaucoup de rapprochements. En fait, il y a un midrash qui fait rapprochement entre Yehuda HaNavi et Moshe Rabbeinu, que ça, c'était un moment quand même Matan Torah. C'était une sorte de petit Matan Torah qui s'est passé ici, parce que tout le peuple, ils sont revenus à la Tchouva, ils ont reconnu la Tchouva. Vous voyez aussi, c'est marqué Yaakov, Levado, et ici, Levadi. Bon. En tout cas, il y a un midrash qui fait beaucoup de liens entre cette histoire de Yaakov et Moshe Rabbeinu Matan Torah. Et ça, c'est un autre chiour. Je n'ai pas voulu rentrer ici pour rester vraiment dans le icard du sujet. C'est-à-dire que ici, en vérité, ils sont passés par un korban chout, une avéra très grave, d'amener un korban à l'extérieur du Bétamigdash. Et Yonami, il est à l'époque du premier Bétamigdash. Mais quand même, ils l'ont fait. C'est une oracha, il y avait une permission temporaire. Quand un prophète, il peut amener une permission temporaire, même si c'est quelque chose de la sourde, quand c'est temporaire, c'est bon. Et il fallait réveiller les Juifs. C'est-à-dire qu'en fait, il a fait un. Les Juifs étaient comme des goyim. Alors, s'ils étaient comme des goyim, il fallait faire un maaseh goy, il fallait réveiller l'Israël qui était en chagrin. C'est-à-dire que quand ils ont reconnu Hachem ou Elohim, en fait, Yahweh Navi, en faisant ce miracle-là, en faisant dévoilant la présence d'Hachem de cette manière-là, il a réveillé l'Israël et tac, d'un coup, ils ont changé. Et tout le monde a fait tchouva à ce moment-là. C'est extraordinaire, vous vous rendez compte. Tout le monde fait avodah zara. Et en un instant, tout le monde fait tchouva. Comment c'est possible? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en eux qui est enfui. C'est pas un processus qui prend du temps. Ça veut dire qu'en réalité, ils ont en eux cette force-là, ça s'appelle Israël. Ça veut dire que Hachem ou Elohim, s'ils sont capables de vaincre tout, c'est quoi Hachem ou Elohim? C'est qu'on arrive à rattacher Elohim avec Hachem, c'est-à-dire que toutes les forces qui sont dans la nature sont dominées par la Havaya, ils prennent leur source de la Havaya, la Havaya Toïd Bara. Et donc, cette force-là, c'est ça le nom d'Israël, parce que Israël, c'est qui s'arrita et Elohim, il est capable de battre toutes les forces, soit humain ou angélique, qu'ils soient humains ou spirituels, qu'ils soient à leur source spirituelle ou dans leur expression physique. C'est-à-dire, t'es capable de, un juif, il a la capacité de surmonter tout ça et de remonter vers Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est Yaakov Avinu qui nous l'a fait hériter. Et il l'a fait hériter, et à Kadosh Baruch Hu, il lui dit, je te nomme maintenant Israël, et sache que Goy ou Kal Goyim, t'auras un peuple de Goyim. C'est-à-dire pas t'auras un peuple de Goyim, t'auras des parties de ta descendance, un jour, qui vont se comporter comme des Goyim. Et il y a un avis, il va prendre ce koar que je te donne de Israël, il va les réveiller comme ça. C'est pour ça que c'est une bracha pure. Parce que c'est une, c'est la réalisation du monde d'Israël. Il est en train de lui montrer une illustration de la réalisation. C'est extraordinaire que Rashi ramène ça ici. Vous voyez, dans le passage là-bas, on fait clairement référence à l'histoire de Yaakov. Non, il y a une autre partie dans ce cours, bon, on n'aura pas le temps de l'aborder, c'est que finalement, le malach, il a réussi à frapper Yaakov et il lui a fait mal. Et après, Yaakov, il est ressorti chalem, mais à la base, il n'est pas chalem. Et ça, c'est lié au fait qu'il lui a reconnu les brachot, finalement, c'est deux fois. Ça veut dire, en fait, c'est passé par force. C'est pas par, il n'a pas consenti au monde. Il n'a pas consenti, il a consenti plus tard, mais pas ici. C'est qu'il y a eu une fragilité chez Yaakov Avinu, en sens, qui va s'exprimer sur la descendance, qui va faire qu'en vérité, et ça, il a quand même un petit pouvoir sur lui. Et ça, c'est une marade dans la Avodah Zarah extraordinaire. Je suis d'Alef, on verra peut-être 3 l'année prochaine. Je vais en arriver jusqu'à là. Mais. Donc ça, c'est pour la partie finalement qu'il y a quelque chose quand même, qu'il y a quand même nous quand même, il y a quelque chose qui est resté, qui va s'exprimer après dans sa descendance. Mais en tout cas, pour conclure ce cours, c'est que ce même Eliyahu HaNavi qui a révélé à ce moment-là, c'est lui qui viendra nous annoncer le Mashiach. Et à ce moment-là, tout le monde va faire tchouva, mais d'un coup. Comme ça que ça va se passer. Il va ramener Atan Dachim et Rachimiam, il va ramener tous les juifs, etc. Et tous les juifs, ils vont reconnaître Vishtach Hamita, ils vont se prosterner devant Kadosh. C'est-à-dire, en fait, encore une fois, il y a un avis, c'est lui qui va ramener le Hachem Elohim, et tout le monde va dire Hachem Elohim. C'est-à-dire que finalement, au moment du Yahouni va revenir, il y aura un dévoilement finalement qui va être pérenne cette fois, qui va rester. En réalité, le Elohim, il va plus être. Pouvoir être pris comme quelque chose d'indépendant, tout le monde va reconnaître. Et il y a quelque chose en nous, il dit un Moshe, qui va vibrer profondément. Quel que soit le juif, finalement, quel que soit les Averot qu'il a fait, quelles que soient ses croyances, il y a Israël, a fait le Pishrata Israël, c'est-à-dire que le Shem Israël, finalement, il est inscrit à l'intérieur du juif et il est inaltérable. Et donc, quand le Mashiach qui va venir, quand il y a un avis, il va annoncer le Mashiach. Voilà déjà, parce qu'il y a un avis, c'est lui qui réveille le peuple. Veshiv lev avot albanim, lev banim alavotam. Alors là, tout le monde va se réveiller, il y aura quelque chose qui va trembler très profondément chez les gens, et tout le monde d'un coup va se réveiller. Ça, c'est un source d'espoir. Hachem nous aide de zocher la goula shlema et d'essayer un peu, pour m'en informer, de réaliser un petit peu ce qui parle dans cette Torah-là.